13h30 sur France Inter.
France Inter, la différence.
Là-bas, si j'y suis, c'est maintenant avec Daniel Mermet.
Bonjour, vous connaissez le coq gaulois ? Carotte ! C'est Catherine, à côté de Rennes.
Après votre série d'émissions sur la Grèce et ses difficultés, peut-être pourriez-vous vous intéresser maintenant au modèle allemand, car je viens d'entendre sur les ondes que les plus pauvres là-bas ont vu leur espérance de vie se réduire de 2, sinon 4 ans pour ce qui est de l'ex-RDA. Dire que jusque-là, on nous racontait que l'on vivait de nos jours de plus en plus longtemps. Alors en fait, de modèle, s'agit-il du modèle à suivre pour trouver une solution au financement des retraites ? À bientôt de vous entendre.
Bonjour, je suis enseignant et je fais grève aujourd'hui car un décret du ministère prévoit de modifier l'évaluation de tous les personnels enseignants, y compris les CPE. Cette réforme a deux conséquences. La première dont tout le monde parle, qui est de faire noter les professeurs uniquement par leur chef d'établissement. Malheureusement, le professeur n'est ni compétent dans toutes les matières enseignées par les professeurs, ni compétent en pédagogie. La deuxième conséquence est la modification de la grille d'avancement. Un professeur est payé selon son échelon. Son échelon dépend de son ancienneté, mais aussi de sa note. En étant bien noté, un professeur peut accéder à l'échelon supérieur un an et demi plus vite qu'un prof moins bien noté. Cela entraîne une différence de salaire de plus de 75 000 euros sur l'ensemble de la carrière. Il y a aujourd'hui en France la volonté de briser l'éducation nationale. Les personnes qui apprennent à lire à nos enfants n'ont jamais eu le moindre cours sur comment apprendre à lire à des enfants. Les professeurs n'ont aucune formation en pédagogie. Ils ne sont plus évalués sur leur pédagogie et sont moins bien payés. Il est temps que cela change. Il est temps de se battre pour que nos enfants aient droit à des cours de qualité.
Oui, bonjour. J'aurais voulu réécouter l'émission qui vient de se passer là-bas, si j'y suis, avec, il me semble que c'est Eric Toussaint, un économiste. Et donc, c'est une super émission, mais j'aimerais bien savoir comment je peux la réécouter, l'enregistrer, parce que c'est vraiment superbement bien fait.
Bon, alors là, je dois dire que c'est simplement magistral, quoi. Vraiment, ce gars du comité d'annulation à l'aide du tiers-monde, il est béton, il explique simplement, clairement, quoi. Et, franchement, je dois dire que j'ai tout compris. C'est comme si je devais la payer, cette dette.
Bonjour Daniel, j'ai fait les comptes après l'émission, là, avec le CATDM et puis sur la crise de la dette, ou la crise de la recette. En fait, j'ai calculé, alors 150 milliards de cadeaux pour 10 ans, ça fait 15 milliards par an. Donc cadeaux d'exonération sur les 1% les plus riches. Et 15 milliards par an, ça fait 450 000 personnes par an payées à 1500 euros net, je dis bien net, avec toutes les charges comprises dedans. Hein. Donc en payant 450 000 personnes à 1500 euros par mois, tout ça sur 13 mois. En plus, il y a le 13e mois qui comptait dedans. C'est bien, hein, c'est pas mal, hein. 450 000 personnes à 1500 euros par mois, toutes cotisations comprises, et tout ça sur 13 mois.
Et oui, on continue aujourd'hui, du coup, ça vous a tellement plu, l'histoire de la dette, l'histoire de notre dette qui est loin d'être terminée, effectivement. C'était jadis la dette du tiers-monde qui captait tout notre intérêt. Quand je dis tout notre intérêt, il était relativement réduit, cet intérêt, mais voilà que la dette publique hante l'Europe, le spectre de la dette publique hante l'Europe, et c'est plus un spectre, c'est devenu une réalité. Voilà pourquoi nous continuons, deuxième volet donc aujourd'hui de ce sujet, avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. C'est comme ça que ce comité s'appelle depuis 1990, sauf qu'aujourd'hui c'est devenu la dette de tout le monde. Donc on retourne à Liège aujourd'hui pour continuer à comprendre, essayer de comprendre. Je crois que c'est assez clair, effectivement, dans l'émission d'hier. Vous pouvez retrouver, réécouter, soit sur labas.org, vous pouvez retrouver l'émission d'hier, ou bien sur la page France Inter, évidemment, où cette émission est réécoutable. Mais alors, qu'est-ce qu'on a appris ce matin? C'est la condamnation de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, à 2 ans et demi. C'est une peine tout de même assez lourde, sauf que Jacques Chirac avait déjà été condamné. Et oui, il avait déjà été condamné par le grand tribunal des condamnés d'avance. Et c'était en 2003. Vous voyez, là-bas, si j'y suis, avait 8 années d'avance. Et c'est pas seulement sur l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris qu'il avait été alors jugé, mais c'est sur d'autres affaires, le financement illégal du RPR, l'affaire des frais de bouche, l'affaire du château de Bitti, l'affaire du comte japonais, ça en fait des affaires. Donc voilà quelques extraits. Vous pouvez retrouver ce procès sur labas.org, la-bas.org. On avait fait une rediffusion de ce procès, je crois, au cours de cette année, en mars dernier. Et vous pouvez le réécouter si ça vous amuse. En tous les cas, c'est vraiment le moment d'entendre un court extrait à nouveau.
Alors, nous allons aborder l'affaire suivante. Les emplois fictifs. Alors, dans l'affaire des emplois fictifs, M. Jacques Chirac est accusé d'avoir usé de son influence pour faire employer par la ville de Paris des personnes travaillant pour le RPR. M. Udiani, vous êtes puériculteur dans une crèche du 5e arrondissement. On peut vous demander quel a été votre parcours professionnel.
Bien sûr, Monsieur le Président. En 82, j'ai commencé mon service militaire à la gendarmerie. Donc jusqu'en 86.
Vous avez redoublé, Monsieur Udiani.
Attention, j'ai gardé des copains chez les gendarmes, quand même. Donc après, en 86, belle année. Donc je suis devenu gendarme d'élite pour la protection rapprochée du couple Chirac. En 89, je suis devenu prétriculteur dans une crèche du 5e arrondissement, comme Monsieur le Président l'a juste dit.
C'est quoi la puériculture pour vous?
C'est un petit peu la sécurité très jeune maintenant, parce que très jeune, il délinque maintenant. Hein. Je leur apprends aux enfants plein de trucs, comme reconnaître la physionomie. Je leur apprends à savoir d'où viennent les tirs, à reconnaître...
Monsieur Udiani, sur plusieurs photos publiées dans des journaux versés au dossier, on vous voit à plusieurs reprises accompagner le couple Chirac dans de nombreux voyages. Pour la seule année 1995 aux États-Unis pendant 10 jours, à La Réunion pendant 8 jours, à la Martinique et à la Guadeloupe pendant 12 jours, en Pologne pendant 3 jours, en Espagne pendant 4 jours, 4 fois en Allemagne, au total 17 jours. Et il est noté que vous n'avez pas été une seule fois absent de votre travail. Éclairez la cour.
Je ne comprends pas, c'est de la diffamation photographique.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de votre salaire comme puériculteur?
Approximativement.
Oui, oui, oui.
À peu près 6500 euros.
Très bien.
Je ne comprends pas ce que je fais là, hein. Je ne comprends pas. C'est quoi un emploi fictif?
Non, mais la défense ne comprend pas non plus pourquoi vous êtes là, monsieur. Vous semblez présenter toutes les qualités pour vous occuper des enfants. Et moi, ce côté éducatif musclé, j'avoue que ça m'a convaincue. Hein.
J'ajouterais qu'ayant des enfants et des jeunes garçons, ils seraient ravis, absolument ravis, d'avoir un éducateur comme vous qui leur apprendrait le tir et la visée, la façon de se protéger, la façon d'attaquer. Non. Et je crois qu'il faut qu'il y ait plus de puériculteurs comme vous. Je vous remercie, monsieur.
Grâce à Sarkozy, la sécurité fait son retour dans ce pays. J'en suis ravi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire à ces messieurs dames. Voilà.
Très bien. Monsieur Udiani, on vous remercie. Alors, nous n'allons pas attendre pour prendre notre décision. Aucune démagogie ne nous arrête ce soir. Et vous allez pouvoir juger. Vous allez pouvoir juger immédiatement l'accusé. Nous avons disposé dans la cabine qui est derrière vous un applaudimètre. C'est un appareil qui, comme vous l'avez déjà compris peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, permet de mesurer l'intensité des applaudissements. Et nous avons une équipe de techniciens en présence d'un huissier qui sont dans cette cabine obscure que vous ne voyez pas et qui sont donc prêts à opérer en écoutant vos applaudissements ou vos sifflets à la question suivante. Vous applaudissez immédiatement après que j'ai énoncé la question. Attention. La question est la suivante. L'accusé est-il sincère ? Deuxième question. L'accusé se fout-il de nous ?
Voilà, l'affaire était déjà réglée il y a bien longtemps. C'était les 5 et 6 mai 2003 au Divan du Monde, l'équipe de La Basse. J'y suis entouré de Frédéric Pagès, d'Hervé Liffrand, du Guette Dreykos, de Lim, Bertrand Roté, Jean-Bernard Pouy, Gérard Mordillat, Hervé Letellier. Et il y avait déjà avec nous Jean-Baptiste Botulle qui nous accompagnait lors de ce procès historique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur labas.org, la-bas.org, au 23 février dernier. Nous continuons donc notre voyage à Liège avec le CADTM. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut à tous les AMG de la Côte d'Opale et d'ailleurs. On vous informe que le prochain Café Repère de Boulogne-sur-Mer aura lieu ce jeudi 15 décembre à 18h30, comme d'habitude au Kawa Coffee House, rue Fédère. Et ce jeudi, nous y parlerons de la dette. Donc voilà, jeudi 15 décembre, 18h30, au Kawa Coffee House, le Café Repère sur la dette. Allez, ciao, à bientôt.
Bonjour, c'est Fred du 06. Voilà, moi je voulais juste témoigner, ça fait l'année prochaine, en 2008, ça fera 10 ans que je vis dehors en fait, voilà. En France, en 2011, il y a encore des gens qui vivent dehors. Moi, ça fera 10 ans. C'est rien, hein. Il y en a qui ont fait plus. Mais bon, je me suis organisé, je me chauffe au bois, je m'éclaire à la bougie ou à la lampe solaire, et tout va bien. Mais écoutez, quand même, je fais économie de 350 euros minimum au bas mot par mois depuis 10 ans. Calculez ce que ça fait. J'espère que dans 10 ans, je pourrai me payer une maison. Une villa à Saint-Trope ou ailleurs. Ciao. Bonsoir, mes amis.
Ici, Anduze, les indignés sont devenus les motivés. Manifestation géante contre la décision du préfet, dimanche 18 décembre à 10h30 par Kim Dugardon. Attention, les caramels mous sont devenus de plus en plus mous.
Bonjour à toute l'équipe de La Basse, j'y suis. Une petite annonce pour un film qui est accueilli dans beaucoup moins de salles que Tintin. Il s'agit de Grand Puy et Petite Victoire. Alors nous, en Auvergne, on est contents. On a deux séances uniques avec Olivier Azam. C'est le vendredi 16 décembre à 20h30 à Clermont-Ferrand au cinéma Le Rio. Vendredi 16 à 20h30 à Clermont-Ferrand au cinéma Le Rio. Et le samedi 17 décembre à 20h30 dans un cinéma qui fait un super boulot à Dompierre-sur-Bèbre au cinéma René Fallet dans l'Allier. Voilà, c'est un début. Tintin, tiens-toi bien.
Je pense qu'il faut avoir des critères, adopter des critères politiques concernant la dette publique.
Éric Toussaint.
L'essentiel de la dette publique est illégitime parce qu'elle a été accumulée dans le cadre d'une politique qui a favorisé une seule classe sociale, qui est une infime minorité de la population, au détriment du reste de la population, premièrement. Deuxièmement, les États qui ont sauvé les banques n'ont posé aucune condition et n'ont pas repris le contrôle des institutions bancaires. Dexia, l'État français l'a sauvé avec l'État belge en octobre 2008. On a laissé Dexia, avec un Français à la tête, Pierre Mariani, dilapider les fonds qu'on avait injectés en son sein en 2008. Et Dexia est retombé en faillite début 2011 et on l'a sauvé une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a de plus illégitime que cette politique qui consiste à aider des banquiers sans leur fixer des conditions et à chaque coup devoir utiliser des fonds publics pour les sauver?
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la BAF si je suis avec Antoine Chao. La dette ou la vie?
Flight number 2, arriving from New
York. Alors, je m'appelle Katerina, ou Catherine en français. Je suis grecque et je suis évidemment révoltée par la situation dans mon pays. J'ai beaucoup de questions sur ce qui se passe au niveau européen et je suis venue ici pour chercher des réponses.
Je m'appelle Christian Seldran et je suis au Conseil scientifique d'Attaque. Et en fait, j'appartiens également au dispositif de coordination du collectif national de l'audit citoyen de la dette publique en France. Donc ma présence ici est extrêmement intéressée. Je pense qu'il y a des compétences tout à fait rares et extrêmement précieuses. Donc je suis venu confronter mes orientations avec les compétences des trois conférenciers. Et voilà ce que je suis en train de faire ici pour relayer ces compétences et optimiser le travail que l'on peut faire en France sur cette question de l'audit citoyen de la dette. Alors, c'est un chantier qui a déjà été ouvert depuis 2 mois et en fait, un appel a été lancé. Cet appel qui a été rédigé par plusieurs organisations a fait l'objet d'une pétition en ligne. Donc la première pétition a été signée par un certain nombre d'autorités, des grandes personnalités. Et ensuite, cette pétition a été mise en ligne. On a recueilli actuellement plus de 45 000 signatures. Et sur ces 45 000 personnes, 27 000 personnes ont demandé à être abonnées à une mailing list, à avoir des informations régulières sur le travail qui se fait. Alors, ce qui se fait également, c'est naturellement la constitution de collectifs locaux pour l'audit de la dette. Et on en est à plus de la moitié des départements. Ce sont des collectifs départementaux. On en est à plus de la moitié des départements. Donc la dynamique est extrêmement puissante et nous sommes en train de réfléchir à la fois à la coordination et à l'orientation de ce travail qui est crucial sur le plan civique et démocratique.
Bien, moi je suis Stéphane, je suis maintenant militant depuis quelques mois au CADTM Bruxelles. Les problèmes de la dette sont des problèmes qui sont un peu particuliers dans notre monde parce que ce sont des problèmes qui englobent beaucoup de problèmes sociaux, qui concernent à peu près tout le monde, mais qui sont tellement difficiles à aborder et tellement difficiles à comprendre pour la plupart des gens qui n'ont pas vraiment de notion que il y a vraiment un travail important à faire de vulgarisation. C'est à cette occasion en fait, que j'ai compris qu'en fait, tout ça tenait à la finance internationale et aux masses monétaires absolument considérables et importantes qui pouvaient décider à peu près de tout dans notre monde. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était vraiment une thématique importante. Et donc moi en fait je suis ici pour m'instruire, pour dans un premier temps essayer de comprendre moi-même et puis pour voir ce que je peux rendre aux autres sur ce thème.
Et voilà, à s'instruire, à comprendre, c'est pourquoi ils étaient là et nous avec eux, et vous avec eux, avec tout le monde, à Liège pour cette rencontre sur le thème « Pour mieux affronter la crise de la dette publique en Europe ». Jusque-là, c'était la dette du tiers-monde, mais voilà, depuis quelques mois maintenant, c'est devenu la crise de la dette publique en Europe. Un petit chiffre intéressant publié justement par le CADTM sur le patrimoine des très riches. Il y a un avant et un après la crise, vous êtes d'accord? Le patrimoine des très riches, nombre de milliardaires en dollars en 2001, donc il y a 10 ans. 497. Leur patrimoine cumulé, 1500 milliards de dollars. C'était il y a 10 ans. En 2007, juste au moment où arrive la crise financière. 1125 ils avaient déjà prospéré, ils s'étaient déjà multipliés, nos milliardaires, avec un patrimoine cumulé de 4 400 milliards de dollars. Ça, c'était en 2007. En 2010, lorsque la crise de la dette publique en Europe arrive, pas seulement en Europe, eh bien, ils sont plus nombreux, ils sont 1210, donc la crise a vu leur augmentation, ils sont plus nombreux après, et leur patrimoine cumulé, 4 500 milliards de dollars, donc ils sont plus riches après la crise qu'auparavant. Voilà une réponse à la question « À qui rapporte la crise ?» Alors, vous connaissez la chanson, il faut rassurer les marchés, il faut sauver notre triple A, il faut des plans de rigueur. Alors ça, des plans de rigueur, il en faut absolument, des règles d'or, etc. On n'a pas le choix, on est bien d'accord avec vous, on aimerait bien éviter, mais oui, bien sûr, c'est très difficile. Mais, c'est douloureux, on vous dit, c'est douloureux, là, un plan douloureux, mais on n'a pas le choix. Voilà la chanson qu'on entend partout aujourd'hui, et pas seulement en France, le spectre de la Grèce est agité partout comme une menace, c'est accepter la rigueur, sinon ça vous arrivera. Mais enfin, on est en droit de se poser la question, d'où vient la dette? A-t-elle été contractée dans l'intérêt général? Qu'est-ce qu'une dette publique? Et si elle n'a pas été contractée dans l'intérêt général, ce qui est le but de ces audits qui sont en train de se mettre en place, de savoir si oui ou non elles ont été contractées dans l'intérêt général, alors dans ce cas, peut-on alléger le fardeau de la dette sans appauvrir les peuples, ce qu'on est en train de faire? On le disait hier, on le rappelait à nouveau hier, en France, le service de la dette est le premier budget de l'État, avant celui de l'éducation nationale, ce qui fait écho à un message qu'on a reçu dans le répondeur de la Bassi J'y suis. La dette écrase le tiers-monde depuis des années, maintenant elle arrive au nord, voilà pourquoi nous sommes avec le CADTM à Liège, en vue de cet audit citoyen de la dette publique. Vous pouvez très bien aller sur voir cette pétition qui est en ligne, dont on vient de parler, dont l'un des participants à cette rencontre parlait. C'est sur audit-citoyen.org. Vous serez ainsi au courant et peut-être que vous aurez à votre tour envie de participer à ces collectifs locaux pour l'audit de la dette. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les auditeurs de là-bas, si j'y suis, participent à cet audit, c'est-à-dire étudier la dette. Étudier la dette publique, c'est une affaire publique, donc les informations doivent être rendues publiques, doivent être accessibles au public. C'est une question trop importante, je le répète, le premier budget en France avant l'éducation nationale, et ce budget de la dette, du service de la dette, ne fait l'objet d'aucun débat dans nos assemblées. C'est quand même, il y aurait peut-être là un certain déficit démocratique que nous sommes bien disposés à tenter de rattraper avec vous, et en tout cas avec ceux qui étaient réunis à Liège avant-hier. La dette ou la vie?
Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. Nous ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce qu'au contraire, les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Yeah.
faïsouni tirailleur. Mitanga torgno le rojorte yel nu teva col guto. Divisé, décrié, manipulé et trahi. Dakasem bako organisé coup de taille. La loi du talion, financé le balayon.
On ne veut plus de vos dons.
Les coups, par mille, tout bas, bâta, attendu, il va défaut. Par mille, tiens, la bouillarde, il n'y a pas.
Alors on retrouve Eric Toussaint qui hier a expliqué comment s'est constituée et s'est développée la dette en Europe, la dette publique en Europe et notamment en France à travers les cadeaux faits aux contribuables les plus riches. Je rappelle ce chiffre qu'il ne faut jamais perdre de vue. Depuis 10 ans, les cadeaux faits aux plus riches et aux grandes entreprises ont entraîné un manque à gagner pour l'État, pour la collectivité, de 150 milliards. 150 milliards d'euros, c'est le montant des cadeaux fiscaux accordés aux plus riches depuis 2001. Ces 150 milliards n'ont pas été consacrés à des investissements, à de la croissance et à du développement. Ces 150 milliards sont allés dans des banques de placement, des fonds de placement, et ces fonds, c'est vers ces fonds de placement que se tournent aujourd'hui les États, et le nôtre par exemple, puisque cet État, manquant de rentrées, manquant de recettes, s'est appauvri, a réduit toutes les dépenses sociales que nous savons. On revient au thème de l'enseignement, mais on pourrait parler de la santé, tout un tas de domaines que vous connaissez, des réductions du niveau de vie, etc. Et pour notre État s'est endetté auprès de ces banques d'investissement, de ces fonds d'investissement, fonds constitués par ceux qui, je simplifie un peu, mais c'est quand même bien, bel et bien ça le schéma, ceux à qui les cadeaux avaient été, ces cadeaux fiscaux importants sont accordés depuis des années. C'est ça en gros le schéma. On retrouve aujourd'hui Eric Toussaint sur le procédé de l'audit de la dette.
Cette dette publique, elle est illégitime. Il faut donc, par un audit citoyen, rompre le tabou de la dette et se poser les bonnes questions, décider
décider de ne pas la payer. Oui. Mais dans une dette publique, il y a une partie de la dette qui est légitime. Tu as travaillé sur la dette de l'Équateur. Vous avez fait des audits, vous avez des experts de la finance comme toi sont venus, ont épluché tous les comptes de l'Équateur et vous êtes aperçu que 70% de la dette de l'Équateur n'était pas légitime. Pour ce qui concerne nos pays, notre pays, la France par exemple, comment est-ce qu'on peut établir la partie légitime de la dette et la partie illégitime de la dette? Ça nous intéresse d'autant plus que le remboursement de la dette, les intérêts de la dette, le service de la dette en France est le premier budget.
Exactement. Hein,
et le premier budget avant l'éducation nationale. Oui. Et que ce budget du service de la dette publique française ne fait l'objet d'aucun débat public. Alors, quelle est la partie?
Alors, la partie illégitime.
Légitime et illégitime, prenons la dette française.
Eh bien, je pense que c'est par un audit citoyen, justement, pour mettre à nu le système de la dette. Comment la dette a augmenté? À qui emprunte-t-on? À quel taux? Est-ce qu'il y avait d'autres choix politiques qui pouvaient être faits? Que représente le sauvetage bancaire, son impact sur l'augmentation de la dette publique? Que représentent les cadeaux fiscaux faits aux plus riches comme impact sur la dette publique en termes de nécessité de recours aux emprunts publics? Toute une série de questions, je peux allonger la liste, que tout le monde peut se poser et qui ne demande pas de percer des secrets d'État. En fait, on peut parfaitement analyser le processus de la dette française ou des autres pays européens en se basant sur toute une série d'informations accessibles pour tout le monde. Bien sûr que si on a accès en plus à de la documentation secrète, tenue au secret par les banquiers, par le ministère des Finances, par la Banque nationale de France et par des institutions européennes, ça nous révélerait des choses tout à fait intéressantes, impressionnantes. Mais on n'a en fait pas besoin nécessairement de percer des coffres pour se faire une opinion, adopter des critères. Moi, je te dirais que je pense que l'essentiel de la dette publique aujourd'hui, pas loin des 100% pour moi, je la considère comme illégitime. Maintenant, ce n'est pas moi qui veux fixer les critères. C'est les gens qui, par une opération d'analyse et de discussion et de débat, où ils vont entendre différentes opinions, vont adopter leurs critères.
Alors formellement, cet audit, il peut ressembler à quoi ? Ça veut dire que dans vos villes, dans vos villages, oui, réunissez-vous et constituez des audits, des commissions d'audit.
Et ça se passe, Daniel. En fait, il y a 2 mois... a été lancé un appel pour un audit citoyen en France. Il a été signé via Internet par plus de 40 000 personnes au cours des 2 derniers mois. Il y a un site qui s'appelle Audit Citoyen qui est disponible. Et il y a des collectifs locaux qui viennent de se constituer dans les 2 derniers mois dans à peu près tous les départements français. Ça commence. La grande presse n'en parle pas encore. Et puis, il y a des tas d'associations derrière. Il y a ATTAC. Il y a le CADTM France, il y a une série d'organisations syndicales, la CGT Finance, le SNUI, mais il y a aussi le DAL, Droit au Logement, participe à ce collectif.
Et les partis politiques.
Une série d'organisations politiques. Le Front de Gauche, le NPA, Vert Écologie, le PS n'y est pas. L'UMP non plus, le Front National non plus. D'ailleurs, ils ne sont pas invités, hein, je dis tout de suite.
Oui, hein. Oui. Et pourquoi pas le PS ? Ça peut
non,
les intéresser.
Non, je parlais de... Pourquoi pas le PS ? Parce que, bon, soyons francs, c'est clair que ce tabou, s'il est aussi important, c'est que c'est non seulement une position des néolibéraux, c'est une position des sociolibéraux. Les leaders socialistes, ils ont été aux affaires à la gestion. Ces 25 années... de politique quand même de cadeaux fiscaux pendant ces 25 années en France, eh bien les socialistes français ont été au gouvernement pendant une partie. Donc ce n'est pas que la droite, c'est aussi ce que j'appelle les sociolibéraux qui ont participé tout à fait de cette politique. D'ailleurs, c'est tellement vrai que en Grande-Bretagne, c'est Gordon Brown, c'était les travaillistes, Tony Blair et Gordon Brown qui ont mené cette politique. En Espagne, c'est Zapatero, un socialiste. Le chef du gouvernement grec, jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était Georges Papandréou, un socialiste. Donc,
le président de l'international socialiste.
Je veux dire certainement que si des responsables socialistes se présentent, ils doivent s'attendre à entendre des critiques pour leur gestion.
Éric Toussaint, supposons que ce grand audit citoyen arrive vraiment à déterminer précisément qu'il y a une partie de cette dette qui est illégitime ou totalement ou presque ou en partie, enfin peu importe. Est-ce que ça resterait quelque chose de symbolique ou est-ce ça peut rentrer dans les actes ?
C'est quelque chose qui doit absolument rentrer dans les actes. En fait, l'audit citoyen, c'est un instrument à la fois de prise de conscience pour rompre un tabou et de mobilisation. Parce qu'à partir du moment, évidemment, où on fait l'exercice de l'audit et qu'on considère que la dette est largement illégitime, on se mobilise pour dire on ne paye pas la dette. On suspend le paiement de la dette et...
Alors si on ne le paye pas, ce sera au détriment de qui ?
Alors, pour moi, c'est très simple. Les petits porteurs de titres, ils se présentent et on les rembourse à 100%. Il n'y a pas de problème. Les institutions financières qui détiennent ces titres, elles ne seront pas remboursées. Point. On annule. Et donc, tu me diras, oui, mais alors c'est la faillite de ces banques. Mais il faut... Ces banques, est-ce qu'on est bien conscient qu'elles sont réellement, de manière, depuis 3 ans, au bord de la faillite ? Est-ce qu'on s'en rend bien compte ? Et qu'il est largement temps de... Et c'est ce qui est combiné pour moi au non-paiement de la dette, il faut transférer à nouveau tout le secteur bancaire capitaliste dans le domaine public. Et donc sans indemnisation. C'est-à-dire, si quelque part, si tu déclares la faillite des banquiers, qu'est-ce que tu dois faire? C'est garantir les dépôts des épargnants. Parce que là c'est oui. La population française. Ça, tu la garantis. Tu dis, l'État reprend cette banque, les autres créanciers qui sont les entreprises, d'autres entreprises financières qui sont créancières de la banque, c'est terminé, ils ne reçoivent pas. Mais les déposants qui sont des créanciers de la banque, ils ont prêté à la banque, eux, on protège leur épargne. Ils ont accès à leur compte, d'accord? Donc on met sous statut public, on transfère dans le domaine public les banques et on efface les dettes. Et les dettes, on les efface comme dettes et on les efface comme créances du côté des créanciers. Et il faut savoir que depuis 3 ans, les banques ont effacé dans leur livre de compte, si je prends les pays les plus industrialisés, pour 1500 milliards de dollars. Parce que là, on compte en dollars parce que ça inclut les banques américaines. Là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont renoncé à des créances parce que ces créances, c'était des produits toxiques, notamment des produits dérivés du marché des subprimes aux États-Unis. D'accord? Donc si elles ont fait ça, et sans se remettre à flot, elles sont tenues à bout de bras par la Banque Centrale Européenne et par la Réserve Fédérale des États-Unis, il est temps de dire, écoutez, on siffle la fin du jeu et l'État reprend le contrôle des banques et assure leur assainissement, mais sans la moindre compensation ou indemnisation des gros actionnaires. Rien du tout.
Alors voilà le détriment. L'avantage, c'est que le budget français se verrait allégé dans ses dépenses de ces 46 milliards, je crois, oui. d'euros chaque année, payés pour, enfin, une partie de ces 46 milliards, payés au titre des intérêts. Et là, on pourrait peut-être reprendre quelques enseignants, on pourrait ouvrir peut-être quelques maternités.
Mais c'est ça l'objectif, en fait, parce que l'objectif, ce n'est pas une sorte d'objectif moral, de dire « parce que c'est illégitime, on supprime ». Bien sûr qu'il faut supprimer parce que c'est illégitime, mais c'est aussi parce que ça permet à l'État, du coup, de retrouver tout à fait une marge de manœuvre, une marge financière pour relancer l'économie. On ne paye pas la dette publique qui est illégitime, on transfère dans le secteur public les institutions financières, ce qui permet aussi au pouvoir public, en ayant les institutions financières, d'avoir un outil d'investissement public avec des fonds, d'accord? Et on augmente les dépenses publiques également. Et on fait bien sûr une réforme fiscale qui remet de la justice sociale dans la collecte des impôts.
Alors vous vous dites, oui, mais qu'est-ce qu'ils proposent concrètement ces gens qui sont si critiques? Eh bien, je vous renvoie à un ouvrage qui vient d'être publié qui s'intitule « La dette ou la vie », auquel nous avons emprunté le titre pour cette émission du CADTM. C'est les éditions ADEN, les éditions éditeurs belges. Et vous avez toute une série de propositions alternatives pour une Union européenne, puisque c'est quand même ça qui nous préoccupe beaucoup en ce moment. Et alors, il y a toute une série de propositions qui méritent évidemment débat, mais il y a bel et bien des propositions qui sont le fruit de tout ce boulot d'une vingtaine d'années sur le thème de la dette du tiers-monde et qui évidemment dont on tire les enseignements aujourd'hui pour cette dette qui s'étend, la dette publique dont la crise s'étend à toute l'Europe. J'ai oublié de citer un ouvrage aussi d'Attac, aux éditions LLL, Les liens qui libèrent, le piège de la dette publique, comment s'en sortir, c'est à peu près les mêmes propos, la même approche que celle du CADTM. Vous voyez qu'il y a une convergence de ces préoccupations actuellement préoccupées, les amis qui étaient là, les venus du monde entier, pour partager leurs compétences, leurs expériences, dont Georges Mitralias, Yorgos Mitralias, un journaliste grec, un de nos amis.
Ceux qui ont profité de cet endettement extraordinaire de la Grèce ne sont pas les peuples, ce n'est pas l'écrasante majorité de la population, ce ne sont pas les salariés, ce ne sont pas les paysans, ce ne sont pas même les boutiquiers grecs. Non, absolument pas. Tout d'abord, ceux qui ont profité et continuent à profiter et vont continuer à profiter, c'est les créanciers. Parce que quand on sauve la Grèce maintenant, c'est les oreilles de tous les Européens, en créant d'ailleurs un climat un peu raciste anti-grec, c'est qu'on sauve la Grèce. Le commun des mortels français, allemands, italiens, etc., paye de sa poche pour sauver ces fainéants de Grecs. Absolument pas. Si on prend la sixième tranche de cette aide qui sauve la Grèce, on voit que plus de 90% de ces sommes astronomiques vont directement au remboursement de la dette et au paiement des intérêts. Ce qui reste pour sauver le pauvre peuple grec est pratiquement insignifiant. La preuve, c'est que ce peuple est en train de crever. Ce plan d'austérité est qualitativement plus sévère, plus inhumain de tout ce qu'on avait vu en Argentine ou ailleurs dans le tiers-monde durant les dernières décennies. Voilà quelle est la situation. Ben, je terminerai en rappelant que la Grèce a le triste privilège, et les Grecs surtout, d'être le laboratoire, le cathès du monde. C'est l'avant-garde, c'est le premier goût de ce qui va arriver à tout le monde. Donc, si la Grèce est un cobaye poussé d'en haut, ça pourrait être un cathès auquel on doit accorder toute notre solidarité, poussé d'en bas, en Europe et par le monde.
C'est une catastrophe sociale.
Nous sommes en occupation, on est un protectorat, on est en colonisation.
La Grèce doit suspendre unilatéralement le paiement de sa dette. Tant qu'elle payera sa dette, ce sont les créanciers qui fixeront les règles du jeu. Si tu veux reprendre la main comme pays endetté, tu dois suspendre. Parce que c'est les créanciers alors qui doivent se présenter et te demander de bien vouloir te mettre autour de la table avec eux pour résoudre le problème.
Alors ça, c'est valable pour l'Italie, le Portugal, l'Irlande.
Tu sais, il y a une chose, un adage populaire bien connu. Si tu as une dette de 1000 euros avec ta banque et que tu as un problème pour le rembourser, c'est toi qui as un problème. Si tu as une dette de 1 million d'euros ou de 10 millions d'euros à l'égard de ta banque et que tu arrêtes de payer, c'est pas toi qui as un problème, c'est ton banquier qui a un problème et qui va essayer de t'aider à trouver une solution. Et c'est ça qui se passe quand on suspend le paiement de sa dette. En plus, quand on suspend le paiement de sa dette, si tu veux savoir qui détient tes titres, suspends le paiement de ta dette. Parce que les gens qui détiennent les titres doivent se présenter, dire qui ils sont. Et ce qui va se passer si tu suspends ta dette, eh bien, les détenteurs de titres vont essayer à tout prix de les revendre. Et le prix de ces titres va s'écraser. C'est-à-dire qu'ils vont passer, s'il est mis dessus 1000 euros, ils vont se revendre sur le marché de l'occasion de la dette, ce qui s'appelle le marché secondaire, à 150 euros. Donc ça va faire diminuer la valeur de ta dette. Et là, je peux passer à l'Équateur, si tu veux. Donc moi, j'ai participé à la commission d'audit de la dette interne et externe publique équatorienne, qui a été instituée par un président démocratiquement élu à la fin de l'année 2006 et qui, dès les premiers mois de sa présidence, alors que pendant sa campagne, il avait dit « je ne paierai pas la dette illégitime », il a mis en place une commission d'audit et on a travaillé 14 mois, de juillet 2007 à septembre 2008, à étudier la dette équatorienne. Et après 14 mois, on lui a rendu notre rapport. Notre rapport était le suivant. Nous avons analysé et eu la documentation suffisante pour analyser 85% de la dette et nous vous recommandons d'annuler entièrement cette dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Équateur a réfléchi pendant un mois et demi sur nos recommandations et puis, le 14 novembre 2008, le président Correa a dit « j'arrête le remboursement des titres ». De ma dette vendue aux banquiers, qui étaient essentiellement des banquiers des États-Unis, okay, pour 3 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces banquiers se sont défaits des titres. Et ils se sont vendus à 20%. Qu'a fait l'Équateur? Il a acheté sur le marché secondaire à du 20%. Il ne peut pas. Ça, c'est pas légal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé les règles du jeu et de la concurrence, Daniel. Il a demandé à une banque, là, je ne te dirai pas le nom, mais c'est une banque française, qui a, elle, racheté, soi-disant, pour son propre compte, mais elle travaillait pour le compte de l'État équatorien. Et elle a racheté du 20%, ok ? Ils ont réussi à racheter 30% des titres en circulation à du 20%. Ils ont atteint une masse critique. Le président Correa a dit, c'était 5 mois plus tard, il a dit au marché, on va être généreux avec vous. Ceux qui veulent vendre leurs titres, nous vendre leurs titres, on leur rachète à 35% de la valeur. Eh bien, en tout, le 10 juin 2009, l'Équateur a pu dire « j'ai racheté 91% des titres ». Ça lui a coûté, si tu veux, grosso modo, 900 millions de dollars pour racheter 3 milliards de titres. La moitié de ces titres, c'était, il fallait payer des intérêts jusque 2030. Donc tu dois ajouter dans ton gain les intérêts que tu
payes pas.
Ouais. Et donc là, c'est 7 milliards qui ont été économisés. Et donc ça a permis de dégager une marge financière dans le budget pour augmenter très fortement les dépenses de santé publique, d'éducation, le soutien à la création d'emplois, l'amélioration d'infrastructures, et y compris des primes aux Équatoriens qui avaient quitté massivement le pays en 1999 quand il y a eu une crise bancaire, et qui étaient partis massivement aux États-Unis et en Espagne travailler ou dans l'immobilier, et qui se sont retrouvés sans emploi dans l'immobilier en Espagne, aux États-Unis, quand la crise immobilière du subprime et immobilière en Espagne a explosé en 2008. Ce qui fait que c'est un vrai changement de politique, qui fait que dans les sondages, Correa, alors que... Il ne fait pas que des bonnes choses, mais il est quand même extrêmement populaire. Il a 60% de taux de popularité, tandis que tous les chefs d'État européens, je te signale, ils sont entre 20% et 32% de taux de popularité dans tous les sondages des derniers mois.
Après des mois de tractations, un compromis entre Paris et Berlin paraît un peu plus envisageable.
Euronews.
En fin de semaine dernière, c'est d'une même voix que les deux dirigeants ont appelé à une refondation de l'Union européenne.
6 décembre 2011.
Pour restaurer la confiance. Pour y parvenir, Angela Merkel veut imposer une discipline budgétaire renforcée.
Les règles doivent être respectées. Leur respect doit être contrôlé. Leur non-respect doit être suivi des faits.
Mario Monti face à une opposition accrue et à la colère grandissante des Italiens.
Euronews.
Les élus du seul parti d'opposition dans la péninsule désormais ont agité des petites affiches où il était écrit « Stop aux impôts et hold up », autrement dit à l'austérité.
14 décembre 2011.
Au cœur des sacrifices, justement, un allongement prévu de la durée des cotisations pour les retraites qui va toucher en priorité les femmes et les ouvriers. À venir aussi la réintroduction de la taxe d'habitation et une hausse de la TVA en septembre.
Alors que la présidence polonaise de l'Union européenne se termine, Donald Tusk a livré un discours très critique sur l'Europe ce matin devant les parlementaires à Strasbourg.
14 décembre 2011.
Évoquant une Europe au bord du précipice.
Si nous n'arrivons pas à accomplir complètement cette tâche, les prochaines générations ne vont pas seulement maudire la crise, c'est nous tous qu'elles vont maudire.
Judith, toi tu es hongroise, tu vis à Budapest. Alors explique-nous un petit peu la situation de la dette en Hongrie. Parce que la dette du tiers-monde, ben voilà, on voit, c'est l'Afrique, c'est l'Amérique latine, etc. Mais il y a aussi quand même l'Europe de l'Est.
Alors l'Europe de l'Est est spécifique dans le sens où il y a quelques pays qui ont été endettés depuis très longtemps, notamment la Pologne et la Hongrie. Et la Hongrie a eu sa première crise de dette en 82, tout comme les pays du tiers-monde. Et quand il y a eu les changements système politique, économique et social, en 89-90, on a eu tout de suite, on a démarré avec un endettement que tout le monde disait que c'est horrible et que petit à petit, on va le rembourser via les privatisations. On était le premier pays où les investissements directs arrivaient massivement. On était très contents de tout privatiser. Et puis, ces privatisations, il s'avère après coup qu'ils nous ont acheté nos usines pour les fermer, pour avoir les parts de marché et de la consommation. Par exemple, en sucre, en production sucrière, on avait 7 ou 8 usines. Maintenant, il nous reste une seule usine. Et seulement un tiers de la consommation de sucre est couverte par la production nationale et deux tiers doit être importée. Alors je pense que la population est tellement révoltée parce que la Hongrie, c'est quand même un pays traditionnel. Mais depuis le Moyen-Âge, on est très agricole, alors que même en sucre, qu'on n'arrive pas à se nourrir. La destruction économique, agricole et industrielle est telle qu'on pense que la Deuxième Guerre n'a pas ravagé à ce point notre pays. C'est à ce point, hein. Ça devient infernal.
On vous a acheté, on vous a privatisé votre industrie pour faire de vous des consommateurs, pour fermer les entreprises et pour faire de vous des consommateurs passifs.
Des produits qui viennent d'extérieur. À l'intérieur du Comecon, le pacte économique entre les pays de l'Est, nous, on produisait les autobus. 12 000 autobus, on produisait. Maintenant, on ne produit plus un. Pour vous dire qu'on n'en peut plus avec. On ne peut pas compenser une désindustrialisation, parce que comment on veut compenser une désindustrialisation? Il faut bien donner aux gens quelque chose à travailler. À nous, on pensait que... Enfin, à nous, on nous disait au début, ah oui, c'est très important, le service. On casse l'agriculture, on casse l'industrie, mais les services vont monter. Mais quels services? Les conseils, les services bancaires, de toute façon, c'est l'étranger. Les banques ont été privatisées aussi. Qui fait que, donc, on a hérité... Au moment des changements, on a eu 20 milliards de dettes. Maintenant, on est autour de 200 milliards, c'est-à-dire ça, en 20 ans, on a multiplié par 10. Et surtout, des 5 dernières années, a été une période d'endettement très rapide. Pendant cette période, il n'y a même pas eu de bien-être. Donc, on n'a même pas dépensé cet argent. On ne comprend pas pourquoi, tout à coup, l'endettement a monté à ce point. Et l'autre problème de la dette hongroise, c'est l'endettement de la population. C'est-à-dire les banques, ils ont piégé les consommateurs des crédits à la consommation et les crédits à l'appartement en disant prenez des dettes en devises parce que le taux d'intérêt est plus faible. Donc vous allez pouvoir les rembourser. En forint, on voyait bien qu'on ne peut pas s'endetter à ce point.
Quoi, en dollars, en Deutschmark, en quoi?
En francs suisses et en euros, mais surtout en francs suisses. Donc, vous avez des taux d'intérêt plus faibles, donc le montant du remboursement, ce n'est pas si grave, allez-y. Les gens l'ont pris, là, tout à coup, le forint a commencé à être dévalué, et le montant des remboursements mensuels sont devenus tels que les gens ne peuvent pas, objectivement, ne peuvent pas payer. C'est une partie de l'endettement. L'autre partie de l'endettement, c'est les gens, ils sont tellement appauvris qu'ils n'arrivent plus à payer l'eau, gaz, électricité. Et donc, ils ont des arriérés. Et ces arriérés aussi sont tout de suite taxés avec un taux d'intérêt. Vous avez un retard de paiement, bon, on vous casse avec les taux d'intérêt. Il y a plus d'un million de personnes qui sont menacées d'expulsion.
Comment on dit en hongrois le combat continue?
Ah, il n'y a pas d'expression comme ça. Ah, parce que chez nous, il n'y a pas de combat massif. On a des révoltes de temps en temps, mais il n'y a pas de combat massif.
Par rapport aux pays développés, en Hongrie,
Georgi Matolcsi, ministre hongrois de l'économie,
le nombre de gens qui sont partis à la retraite pour un handicap est irréellement élevé.
Mars 2011.
Une chose qui devra être changée. Nous aimerions proposer un emploi à la place d'une pension ou un travail d'intérêt public à tous ces gens.
L'euro a dégringolé mercredi sous le seuil de 1,30$ pour la première fois de l'année.
Euronews, 14 décembre 2011.
On a là la confirmation que les opérateurs du marché des changes sont de plus en plus sceptiques sur l'efficacité du dernier sommet européen. La France et l'Allemagne restant sous la menace d'un abaissement de leurs notes de crédit par les agences de notation.
Insuffisant, Moody's reste intraitable et critique un accord jugé à minima.
Itélé, 13 décembre 2011.
L'agence de notation financière considère que le sommet européen a couché d'une souris et que les décisions annoncées ne suffiront pas à juguler la crise de la dette.
Voilà, vous avez tout compris, il faut rassurer les marchés. J'espère que ce n'est pas la seule chose que vous avez comprise quand même après ces 2 heures passées à Liège avec cette réunion autour du CADTM. La dette ou la vie, un reportage avec Antoine Chao. Merci à tous, merci à Katrina, Christian, Stéphane, Judith, Luc, Pauline, Eric Toussaint, Yorgos Mitralias. J'ai cité la dette ou la vie, mais j'ai cité également les dettes illégitimes de François Chesnais chez Raison d'agir. Et puis, le piège de la dette publique, comment s'en sortir, attaque
LLL, les liens qui libèrent. Merci à... Et puis, le 23 février 2011, nous avions rediffusé le tribunal des condamnés d'avance, où Jacques Chirac avait été condamné par toute la bande de là-bas, si j'y suis. Vous pouvez retrouver cette émission sur là-bas.org. Et puis, encore une chose, audit-citoyen.org pour tout savoir sur ces collectifs locaux pour l'audit de la dette. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, ou sur le site là-bas.org, ou encore sur notre page Facebook. Pascal Baldassari et Cédric Lalanne étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chomton a réalisé héroïquement cette émission, assisté de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. Attends vos messages sur le répondeur de la base JSP au 01 56 40 37 37. Il est 16h sur France Inter, 16h et quelques secondes. On se retrouve demain à 15h pour la base JSP. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Quelques milliers d'enseignants ont manifesté cet après-midi dans les rues de Paris. Ils ont dénoncé le projet de réforme d'évaluation de leur profession. Entre 11 et 47% de profs ont suivi la grève aujourd'hui dans le primaire et le secondaire, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale et des syndicats. Insuffisante et incohérente, la Cour des comptes dénonce aujourd'hui les lacunes de la nouvelle politique lancée en 2009 pour l'hébergement des sans-abri. Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes explique, chiffres à l'appui, que le nombre de SDF a explosé en 10 ans, il est passé de 85 000 à 150 000. Certes, les pouvoirs publics ont pris la mesure de cette évolution, mais les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, déclare le président Didier Migaud. Parmi les critiques, l'accueil des SDF qui manque d'organisation et de coordination, l'offre de logements qui est insuffisante dans les zones où les besoins sont les plus massifs. Dans l'affaire Karachi, Renaud Donnedieu de Vabre a été mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux. La justice soupçonne l'existence de rétrocommissions dans des contrats d'armement qui auraient pu financer la campagne d'Edouard Balladur en 1995. À cette époque, Renaud Donnedieu de Vabre était le bras droit du ministre de la Défense, François Léotard. Dans l'affaire Grégory, la cour d'appel de Dijon juge aujourd'hui irrecevable la demande de constitution de partie civile de Muriel Boll. La belle-sœur de Bernard Laroche avait déposé sa demande début octobre. Elle voulait avoir accès au dossier rouvert en 2008 pour de nouvelles analyses ADN. Les députés ont définitivement adopté aujourd'hui l'encadrement militaire pour les mineurs délinquants. Le dispositif proposé par la loi Ciotti sera lancé dès le mois de février prochain. La préfecture de police de Paris a fait les comptes. Elle recense en tout 400 salons de massage dans la capitale. Elle reconnaît qu'ils se sont multipliés depuis quelques années, mais contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des repères de prostitution. La Turquie rappellera son ambassadeur en France si jeudi prochain les députés votent en faveur de la loi qui sanctionne le génocide arménien de 1915, un génocide que la Turquie a toujours nié. Ankara accuse la France de mentalité moyenâgeuse. Cet après-midi, le Quai d'Orsay a tenté de calmer le jeu en soulignant l'importance du partenaire et allié turc. Les vacances de Noël commencent demain soir. Ce sera donc l'occasion pour beaucoup de déplacements. Bison futé voit orange sur la route et la SNCF, de son côté, attend plus d'1,5 million de voyageurs dans les gares parisiennes rien que pour le premier week-end de vacances. Ce ne sont pas les Oscars, mais quand même, le film français The Artist rafle 6 nominations aux Golden Globes, l'antichambre des Oscars. Il devance tous les autres films en compétition. Les Golden Globes, c'est en janvier, donc juste un mois environ avant les Oscars. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les jours, à partir de 11h...
Vous ne pourriez pas baisser votre voix?
Les Affranchis.
Bah non, mais je peux parler comme ça, mais ça n'a aucun intérêt, je pense.
Isabelle Giordano.
Sensuelle comme une carotte râpée.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des Affranchis avec leurs invités, Vincent Delerme, Patrice Latronche et Vincent Eden.
Belle patate, c'est le breton.
En direct du studio 106.
On ne peut pas en placer une.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des Affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Bonjour Frédéric Ledéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia. Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Quand on aime, on ne compte pas. Hier, j'ai diffusé un extrait du disque du pianiste Henri Barda, enregistré au Japon, à Tokyo, en 2008. Et j'étais vraiment enthousiasmé, puis j'ai continué à l'écouter. Je suis de plus en plus enthousiasmé, donc je vous propose de partager cette admiration. C'est vraiment un pianiste absolument incroyable, je trouve. Né au Caire, dans une famille de musiciens, même s'ils n'ont pas fait leur métier. Puis il a subi pas mal de péripéties. Il est passé par New York, par Paris, au conservatoire, où il a rencontré des professeurs magnifiques, dont une prof, Madeleine Giraudeau, qui était toujours pimpante, dit Henri Barda, souriante. Et puis, chacun de ses élèves pouvait se croire son préféré. C'est pas mal, ça, comme réflexion. Et en période d'examen, elle emmenait ses élèves, et Henri Barda particulièrement, avec son mari et sa fille, pour des week-ends à la campagne, quand nous n'étions pas au piano, avec des bottes. Nous faisions de longues marches entre champs et forêts, dans l'Eure-et-Loire. J'ai continué à aller la voir assez souvent par la suite. Ensuite, j'ai eu le premier prix, le prix de musique de chambre chez Jean Hubo, que j'ai connu aussi personnellement, c'est moi qui parle, donc c'était un professeur étonnant et vraiment absolument pas du tout autoritaire, mais qui montrait par son exemple ce qu'on pouvait éventuellement faire sans jamais obliger quiconque. Voilà, Henri Barda, ben voilà, c'est ce disque-là me sidère littéralement. Je vous propose d'entendre un extrait de la quatrième ballade de Frédéric Chopin. Je trouve que c'est absolument grandiose. Frédéric Chopin, quatrième ballade par Henri Barda sur ce disque publié sous le label Sisyphe. On trouve Johannes Brahms. On a entendu un petit extrait des Klavierstücke opus 76 hier, des morceaux pour le piano. Ludwig van Beethoven, 28e sonate. Et puis les quatre ballades de Chopin et la Barcarolle, un disque tout à fait magnifique. Un autre disque tout à fait magnifique aussi, mais évidemment Jean-Guy Enquiras, violoncelliste, suit une carrière plus régulière, on l'entend assez fréquemment, il publie aussi des enregistrements assez régulièrement. Donc Vivaldi, pour lui Vivaldi c'est très important, il l'a dit, c'est vraiment quelque chose qui a fixé son attention de jeune homme, et à côté des suites de Jean-Sébastien Bach, qu'il a gravé magnifiquement, eh bien Vivaldi et sa Madeleine de Proust, c'est Jean-Guy Enquiras qui le dit lui-même. Il a entendu les concertos pour violoncelle par Anner Bijlsma. Bijlsma qui est un violoncelliste des Pays-Bas, on dit hollandais trop facilement, donc néerlandais. Et Bijlsma qui jouait avec le Collegium Aureum a gravé les concertos, et ça a été une des grandes émotions de l'encore jeune violoncelliste Jean-Guy Enquiras. Et ben il restitue ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché lui-même avec ce disque et l'Académie für Alte Musik de Berlin, donc pour la musique ancienne. Voici par exemple